sur Radio U. Tous les derniers dimanches de chaque mois, de 19h à 20h, le magazine de l'impro, c'est Cocus.
Salut public et bienvenue dans Cocus, le magazine de l'impro sur Radio U. Cocus, qu'est-ce que c'est ? Cocus, c'est une émission, un magazine sur l'improvisation théâtrale. Une fois par mois, tous les derniers dimanches de chaque mois de 19h à 20h. Et on va y trouver des interviews avec une troupe invitée du pays brestois et alentour, enfin du Finistère plus globalement. Une interview, quelques jeux d'impro, on va connaître un petit peu tout ce qui se passe autour de l'impro dans le Finistère. Il y aura un agenda de toutes les dates et tous les highlights qu'on va pouvoir retrouver au fur et à mesure des différents mois. Mais un cocus en impro, qu'est-ce que c'est ? Un cocus, si vous posez la question, c'est ce petit temps qu'ont les improvisateurs et improvisatrices pour préparer leur scène, pour savoir qui va monter sur scène, quels vont être les personnages, quelle va être éventuellement l'histoire. Bon, ça dure pas non plus 15 plombes, hein, ça dure quelques secondes. Mais c'est un petit temps d'échange, voilà, entre les différents joueurs et les différentes joueuses, et petit temps d'échange qu'on va avoir ici aussi, puisqu'on a donc des invités. Et ce mois-ci, pour le mois de février, nous avons Romain Abasque, qui est avec nous, d'Impro Infini, qui vient nous parler du mondial d'impro qui aura lieu les 13 et 14 février prochains. Mais on va tout de suite commencer avec les news et l'agenda du mois passé et du mois à venir. Et pour commencer ces news, commençons avec ce qui s'est passé ce mois-ci au mois de janvier. Très peu de choses au final, c'est un mois de janvier, c'est normal, mais quand même des choses bien notable. Du côté de chez Poulpe Productions, le 10 janvier, on a eu le premier match du championnat interquartier Brest Impro, qui s'est déroulé à la PAM, triomphe, salle complète. Le match a vu s'opposer Kérinou à Recouvrance, et tout le monde est reparti avec une égalité 7 à 7. Le 16 janvier, on a eu les contes et légendes de la mort en Bretagne, à la médiathèque de Saint-Marc par la Libido. Première soirée nuit en médiathèque qui s'est déroulée donc à la médiathèque de Saint-Marc. Le 17 janvier, il y a eu le Late Show à Lavelvor, le Late Show d'Impro Infini, un format de talk show états-unien qui a été revu par la troupe à l'occasion des 20 ans de Lavelvor à Plougastel d'Aoulas. Bon anniversaire. Pour ce qui arrive pour le mois de février, du côté de la Clique à Farce, le 6 février, on a le musical au Kafkérine, spectacle entièrement musical, très souvent sans parole. Du vendredi 6 au dimanche 8, du côté des vitamines de Plabennec, on a le deuxième festival Festamine, qui va mélanger du théâtre répertoire, d'impro et aussi des balades contées, à l'occasion des 30 ans de l'association Vitamine. Bon anniversaire. Et on peut retrouver un peu tout ça dans toute la ville de Plabennec, notamment au champ de foire et à la salle Tanguy Malmanche. Du côté de chez Poulpe, deuxième match de Brest Impro qui va se voir opposer Saint-Martin à Lambézélec, toujours à la PAM. Les places pour les matchs de toute la saison sont d'ores et déjà disponibles en ligne. Et toujours chez Poulpe, le 12 février, le duo d'impro, classique duo d'impro d'Alain et Morgane, mais cette fois en Hot Sessions. C'est leur classique duo d'impro, mais sous sauce piquante de plus en plus forte, à la manière de Hot Ones bien sûr, et ça se passe au Grabuge. Du côté de la Libido, le mercredi 4, deuxième spectacle de nuit en médiathèque, qui voilà le format au coin du feu, deuxième fois que ce format est joué, me semble-t-il, qui est un format long sur le thème des retrouvailles entre amis. Voilà, et là, ça se passe à la médiathèque de Lambé à 19h, donc le mercredi 4. Toujours avec la libido, le vendredi 13, Murder Party improvisé aux Enracinés. La date tombe très bien. L'entrée est libre, mais je vous conseille de réserver avant, car aux Enracinés, ça se remplit très très vite. Et bien sûr, les 13 et 14 février, on va y revenir tout à l'heure, on aura le Mondial d'Impro, le 13 février à l'Alysée à Guy Pavin, et le 14 à la Velvor à Plougastel d'Aoulas. Ça va être du gros catch d'impro, et ça va être, je pense, très très chouette. C'est la fin de ces news, on se laisse avec une petite pause musicale et on revient dans un instant avec l'interview de Romain Abasque d'Impro Infini. Vous êtes sur Radio U, à tout de suite. De retour sur Radio U 101.1, on va maintenant passer à la partie interview avec Romain Abasque qui est avec nous. Romain Abasque d'Impro Infini qui va venir nous parler du Mondial d'Impro.
Tout à fait, bonjour tout le monde.
Bonjour Romain, tu vas bien?
Oui, ça va et toi?
Bah ça va très bien, écoute. Donc on va venir au Mondial d'Impro dans un instant.
J'aimerais revenir un petit peu avant tout sur déjà Impro Infini. Est-ce que tu peux un peu nous faire, nous décrire un peu la troupe, qu'est-ce que c'est, quand ça a été créé, un peu l'historique.
L'historique, alors il faut remonter à 2004, donc ça a déjà quelques années, déjà deux décennies bien commencé à être bien tassé. L'idée au départ de cette, la création de cette compagnie, c'était de, d'utiliser les outils de l'improvisation pour alors, une partie de formation, d'atelier et aussi de créer des spectacles sur mesure. J'étais pas là à la création, mais pour avoir discuté avec les créateurs de l'époque, c'était un peu cette idée-là. Et en tout cas, de trouver un moyen de vivre aussi de l'improvisation. C'était un peu le rêve des créateurs. Et moi, j'ai intégré cette histoire-là en 2009. Donc ça fait con, ça fait un petit bout aussi. À un moment donné où la compagnie a pris un axe qui est encore un des axes majeurs de la compagnie, c'est les spectacles de lutte contre les discriminations. C'est-à-dire, en fait, par l'improvisation, par le fait d'écouter les gens, de pouvoir porter une parole que peut-être des gens ne portent pas sur scène, et tout en utilisant aussi des ressorts parfois de comédie, d'exagération, eh bien on pouvait traiter des sujets et faire réfléchir autrement. Et donc on a commencé à travailler sur les questions de handicap au travail, les questions d'inclusion, même si à l'époque, c'était en 2010, le mot inclusion n'était pas encore dans les lexiques. Le handicap et puis l'égalité femmes-hommes et les discriminations changent large, aux questions de racisme aussi, de LGBTQIA+, plus phobie. Donc on a élargi un petit peu nos champs d'intervention. Et donc la compagnie c'est en tout cas spécialisée, on va dire, sur la création de spectacles sur mesure. Souvent on vient nous contacter, nous envoie un mail disant je suis une telle entreprise ou telle collectivité, association ou juste groupe de personnes, et on a un sujet qu'on aimerait bien traiter, et on aimerait que ce soit interactif, que ce soit pas juste descendant, qu'on puisse apporter que le public puisse aussi interagir, réfléchir avec nous, tout en apportant des éléments factuels, des fois réglementaires, législatifs aussi, ou des définitions de certains termes. Et du coup, on vient, on crée, donc il y a toujours un temps de préparation en amont, on rencontre les personnes directement concernées. Une petite maturation artistique, on va dire, et puis on écrit soit des canevas, soit des fois des vraiment écrits, et l'improvisation vient se glisser dans l'interaction qu'on va mettre avec le public, et puis c'est parce que c'est ce qu'on aime, on met de l'improvisation un petit peu partout. Donc ça, c'est une grande partie du temps de travail d'Impro Infini, on va dire. Et puis il y a la partie grand public aussi, où on continue à faire les spectacles, pour le coup 100% improvisés, notamment au Cabaret Vauban, tous les deux mois environ, et dans d'autres salles de spectacle aux alentours.
Ok, cool. À travers du coup tous ces un peu messages que vous voulez véhiculer, qui sont très chouettes, est-ce que vous avez des concepts un peu phares, des choses un peu récurrentes que vous faites souvent, que vous aimez bien faire du coup à Impro Infini?
Ouais, pendant longtemps, je pense que la marque de fabrique d'Impro Infini, ça a été les catchs d'impro au Cabaret Vauban. Pendant je sais pas combien de temps on a pu jouer ça, c'était tous les mois à l'époque. Il y a beaucoup de public qui se déplaçait. Il y avait une offre moindre aussi en improvisation sur Brest. Et puis à force de rencontres, d'aller faire des stages à droite à gauche, de rencontrer d'autres artistes, on se rend compte que la pratique, avec l'improvisation, on peut faire plein de formes de spectacles. Et puis on a commencé à réfléchir à d'autres choses. Tous les deux mois, Vauban propose des soirées qu'on appelle 100% improvisées. Souvent, il y a deux spectacles sur chaque soirée. On a un spectacle qui a été, je pense, créé par Pamela Oléa, qui s'appelle Du fond du cœur, où le public peut inscrire ce qu'on appelle des merdes ou des merci. En gros, qu'ils ont un message de reconnaissance, ou au contraire, peut-être une récrimination à adresser à quelqu'un, quelque chose. Ils écrivent, et nous, c'est notre matière de jeu. Je pense à Pulsation, là encore, de Pamela, où on part de la musique. Fragment qu'on a créé, où là, pareil, c'est... On part du public, c'est un peu la matière première de l'improvisation, c'est partir d'une impulse du public, c'est un peu la tradition, disons. Fragment, c'est on part d'une anecdote qui a marqué une personne, qui était un tournant dans la vie de la personne, et puis ça nous inspire pour créer une histoire longue. Donc on essaye de se réinventer aussi, d'avoir des spectacles un peu... un peu qui nous surprennent et on se réinterroge tout le temps. Tiens, est-ce qu'on fait des histoires longues? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un message dans cette histoire? Est-ce qu'on va juste sur du rire? Est-ce qu'on va... Donc voilà, il y a pas de... On essaie de pas non plus s'enfermer dans un format, tant qu'on s'amuse en tout cas.
Ok, carrément, trop bien, trop bien. Et combien du coup il y a de personnes dans Un Point Infini qui composent du coup le
alors la, ouais, nous la compagnie, alors d'un point de vue juridique, on est une coopérative, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est associé, donc dedans on a un gérant, Hervé Beau, qui lui n'est pas comédien mais vidéaste, donc il nous apporte un regard différent. Il est ethnologue, enfin il a une formation en ethnologie, donc il nous fait réfléchir un petit peu sur notre façon de travailler, tout en ayant sa casquette de réalisateur vidéaste. Bastien Penverde, qui est notre chargé de production, qui gère toute la partie contrat, paye, etc. Voilà, qui nous dit attention là, ça coûte trop cher là. donc Pamela, Oléa et moi-même, on est les comédiens, on est à la casquette de co-directeur artistique, c'est-à-dire on va donner la direction sur comment est-ce qu'on veut, on veut travailler sur scène, sur ce qu'on veut envoyer un petit peu comme message et comme regard artistique. Marlène Grenon, elle qui est basée à Quimper et qui est comédienne et qui on travaille beaucoup et qui est chargée de projet, alors on essaie de trouver des termes un petit peu, mais en gros quand on a des demandes, on se répartit un petit peu les projets. Et puis je pense à dans les comédiens et comédiennes avec qui on travaille beaucoup, il y a Léo Madec, avec qui on a connu en tant que collégien, il faisait partie de nos ateliers à la Fontaine Margaux. Coucou Léo. Il doit dormir encore à 7h. Cindy Prémel, qui travaille qui est comédienne, qui vient pas forcément de l'improvisation, qui a une formation de chanteuse aussi, chanteuse lyrique, enfin qui apporte, chacun et chacune apporte leur couleur. Et puis Mec Tilde, qui est sur Quimper. Je pense aussi à Antoine Guillaumard, qui est musicien, parce qu'on travaillait beaucoup avec de la musique. Thomas Hury, qui est régisseur lumière et vidéo. Donc on agrège aussi des compétences diverses et des personnes qui du coup connaissent des fois depuis des années, des fois qui ont commencé à travailler et qui nous font bouger en tout cas.
Et tout le monde du coup est professionnel.
C'est ça. L'idée c'est qu'on travaille aussi avec quasiment tout le monde est intermittent du spectacle ou en tout cas dans ce processus là, parce que c'est se dire le fait de travailler avec des gens qui le matin se lèvent en disant mon métier c'est le théâtre, ça apporte une autre dimension que en fait c'est juste un loisir et puis c'est cool, sans dire que c'est bien aussi que ce soit toujours cool l'improvisation, mais qu'on vient nous demander de travailler, je sais rien. Il y a 2 jours, on était au Macorlan pour les vœux du CCAS de Brest. On parle du bien vieillir à domicile, la solitude, bien vieillir aussi en résidence. C'est cette bande d'un investissement aussi d'écoute, de compréhension, d'empathie et de réalisation. Le mot est un peu pompeux, mais faire honneur aux personnes qui ont bien voulu partager leur expérience, qui des fois pas toujours simple, il y a des parcours de vie compliqués, donc voilà, se dire on a bien travaillé, c'est notre façon de travailler quoi. Il y a un engagement dans le fait qu'on veuille faire des beaux spectacles pour les gens qui nous ont demandé, qui nous ont partagé des choses et les gens qui vont nous regarder aussi.
C'est chouette, ça permet d'amener aussi l'impro aux gens qui peuvent pas vraiment aller en voir ou...
Ouais, je pense que c'est pas spécifique à Un Point Infini, mais on va dire ce qu'on appelle théâtre d'entreprise, qui regroupe beaucoup de choses, mais c'est d'aller jouer là où les gens sont.
Ouais.
Alors c'est dans les entreprises, dans les centres sociaux, dans les bars, dans des endroits qui sont pas faits pour qui sont pas des salles de théâtre, avec tous les inconvénients qu'il y a, de techniques, des fois, d'écoute du public, mais de se dire, on va aller jouer là où on nous demande de jouer.
Trop bien. Et toi, du coup, plus personnellement, pour en être arrivé là, c'est quoi un peu ton parcours? T'as une formation théâtrale classique ou
Non, moi j'ai pas une formation théâtrale classique, je suis pas passé par le conservatoire, j'ai toujours eu des expériences de théâtre, on va dire, dans mon parcours scolaire, avec mes activités théâtre, club théâtre en 5e, mais à chaque fois c'est des choses qui m'ont marqué. Profondément marqué par les rencontres, par l'effet que ça fait d'être sur scène, aussi. Et non, en fait, j'ai découvert l'impro en tant que spectateur dans un bar quand je faisais. Mais j'étais étudiant à l'UBO. Ici, j'ai fait un semestre à l'Université Laval à Québec où j'ai découvert l'improvisation. Il y en avait partout. Je fais waouh, c'est super! Et en rentrant sur Brest, ben je suis allé voir Impro Infini au Vauban, qui annonçait que, donc c'était au mois de juin 2006, qu'en septembre de l'année, ils allaient commencer ouvrir des ateliers. Et je me suis inscrit avec un copain. Et j'ai commencé comme ça l'impro une fois par semaine, puis deux fois par semaine, puis l'année suivante je me suis inscrit à la Libido en plus, où j'ai commencé à apprendre le match d'improvisation et j'ai rencontré des super personnes qui sont encore des personnes que j'aime beaucoup. On se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, bah voilà, le principe de oh, on a commencé ensemble, c'est super. Donc ouais, c'est à un moment donné où, peut-être pour la première fois de ma vie, j'avais une passion, quelque chose qui me passionnait, ouais. Qui était un moteur important. Où le matin, je me levais et disais, ah, ce soir, j'ai atelier, c'est super. Ah, ce soir, on a un cabaret au Caravanserail, à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Mais il y avait une émulation qui fait, et l'effet de la formation s'est fait un peu sur le tas. Et puis après, en prenant des ateliers, en continuant la formation, parce que c'est un métier où je pense, comme beaucoup de métiers, mais on continue tout le temps à apprendre. Okay. Et tous les ans encore, là, on part, je pense, avec Pamela notamment, Marlène aussi, je sais, le fait, mais on prend une semaine pour aller se faire former par des personnes qui nous apportent un regard différent, pas forcément en improvisation, mais sur l'art de la scène en général.
Ok, ok. Et est-ce que dans tout ça, est-ce que tu as un souvenir d'improvisation qui t'a vraiment marqué, ton meilleur moment?
Ah, c'est dur.
Il doit y en avoir plein.
Ouais, avec les particularités que souvent, tu fais de l'improvisation aussi, ouais. C'est que des fois, on est tellement dans une sorte de flow qu'on sort de scène un peu après des épreuves de bac, on ne sait plus trop sur quoi on a travaillé.
Ouais.
Et des fois, on dit, ouais, mais je me rappelle, je vous l'ai vu sur scène, et vous avez joué cette scène. Je fais,
j'ai jamais fait ça.
Je me rappelle pas. Si j'avais un souvenir, c'est peut-être la première scène d'impro. C'était un peu le spectacle de fin d'année au Vauban, avec Sébastien Chambre notamment. Coucou Sébastien, je sais que t'écoutes Radio U de temps en temps. mais ouais, Sébastien qui était un peu notre prof référent, même si c'était plusieurs à intervenir sur l'année. Et donc c'était en format cabaret, donc plein de défis d'improvisation. Et puis, à l'issue du spectacle-là, il y a quelque chose qui s'est passé, dire ouais, enfin le moment où tu te sens à ta place, quoi, avec les gens qui sont sur scène, au rapport au public, les rires qui sont déclenchés, une sorte d'état d'enfance aussi qui se retrouve là. Si je devais garder un souvenir, ce serait ce moment-là, cette sortie de scène, dit ouais, c'était cool, quoi. Et c'était la première fois. Ouais. Donc ça, je m'en souviens bien de cette première scène. Et après, il y a eu des moments, des petites épiphanies. On dit, voilà. Et des fois, c'est des souvenirs qui peuvent être un peu difficiles parce que c'est des moments où des fois, c'est dur. Où tu dis, voilà, je capte, je sais plus trop où j'en suis. Les moments où tu penses tout connaître d'une discipline. Et puis en fait, tu te rends compte que non. T'as juste passé la première marche. Et la deuxième marche, elle est encore plus longue, plus grande. Et des fois, il y a des plateaux comme ça où c'est dans toute phase d'apprentissage, mais on a l'impression de plus progresser. Et c'est des moments où il faut s'accrocher. Il y a eu des moments sur scène, une fois, tu dis, voilà, c'est dur, quoi.
Ouais, mais
encore là, il y a des fois où, parce qu'on est sur des formats de jeu où on joue de façon plus lente, on va dire, on prend plus de temps de construire. Quand on repart en format, parce qu'il y a le cas pour le mondial, en catch d'impro sur des formats beaucoup plus percutants, des histoires plus courtes, à des fois avec des gens qui font ça toute l'année, toi tu fais ça deux fois par an, tu dis waouh, là ouais, voilà, mais c'est des mécaniques, le cerveau est tellement plastique que il faut l'exercer à faire différentes choses.
Carrément, carrément, c'est cette difficulté qui donne envie d'y retourner.
Oui, un petit côté maso surtout.
Donc le mondial, c'est le 13 et 14 février. Le 13 à l'Alizé à Guipava et le 14 à Lavelvor,
oui.
À Plougastel d'Aoulas. Qu'est-ce que c'est le mondial d'impro?
Mondial d'impro, c'est un nom pompeux. Mondial, en fait, c'est une rencontre de catch d'impro, c'est-à-dire deux équipes, pour le coup, là, c'est deux trios. Ça peut être deux duos, mais nous, on fait en trio. Deux trios qui vont s'affronter sur des joutes théâtrales avec une arbitre. En l'occurrence, ce sera Pamela Olea qui sera l'arbitre des deux soirs sur des sujets du public. Donc les meilleurs sujets, évidemment, ceux du public.
Ah, bien sûr.
Et puis des contraintes amenées par l'arbitre. Et le public, à l'issue de chaque improvisation, ben, vote pour l'histoire qu'il a préférée. Et donc, à l'issue de ça, il y a un gagnant qui sera donc champion du monde. Voilà, parce que ça doit être... Je pense tous les ans, il doit y avoir au moins une vingtaine de mondiaux d'impro oui. sur la francophonie. voilà. Mais certains le mettent sur leur CV, hein, qu'ils ont été champions du monde.
de ce
oui,
mondial
bah, oui, oui. Bah,
oh, c'est
ouais,
drôle.
Ouais, c'est drôle.
En même temps, c'est un vrai...
Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et après, l'idée, c'est surtout de faire un grand spectacle. Je dis grand spectacle parce que c'est des soirs où il y a entre 500 et 700 personnes par, oui. Dans la salle. Donc, il y a un effet effervescent. Il y a de la musique. Et on a un DJ sur scène, DJ Tash, qui sera là, qui va scratcher en direct. Il y a les lumières et vidéos de Thomas Herry et des équipes techniques des deux salles. Donc, c'est un show où on essaye d'envoyer un peu plein les mirettes et que le rire fuse, quoi. Ouais. Pour le coup, le catch impro, c'est de la punchline, c'est des personnages, c'est des situations décalées. Donc, un spectacle souvent familial aussi. On rencontre, il y a pas mal de familles qui viennent voir les soirs de mondiaux.
Trop bien, ouais, tout public, quoi.
Tout public, ouais, ouais.
Trop bien,
ouais,
trop ouais. bien. C'était quand, je me suis posé la question, c'était quand le premier mondial d'impro?
Premier mondial, donc c'était à la Velvoir. À l'époque, on faisait deux soirs, on avait fait trois soirs à la Velvoir, je crois, il y a longtemps. Alors moi, je suis arrivé en 2009, donc je pense que les premiers devaient être peut-être 2007 ou 2008.
D'accord.
Ouais, je pense sous l'impulsion de Patrice Koum, qui était à l'époque directeur du Macerlan aussi, mais à l'époque, il était directeur de la Velvoir.
Ouais.
Et il était spectateur des catchs sous le cabaret Vauban. Et s'il dit, tiens, ça serait chouette de mettre ça à la Velvoir. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc ouais, ça va faire presque 20 ans que il y a eu quelques années de pause à un moment donné, puis on est revenu parce que à un moment donné, ouais, ça nous a manqué un peu ce gros spectacle. Les spectateurs disaient, c'est con, vous faites des catchs. donc on a recommencé, mais ouais, c'est un peu une institution. On a des gens qui disent, moi je viens vous voir que là mondial.
Oui. Ouais.
Okay. Il y a certains toujours qui viennent aussi voir du catch de la lutte.
Ouais.
Donc ils sont surpris. Ils disent, je m'attendais à
que vous mettiez vraiment ça se tape dessus. Ouais.
Deux ans, c'est arrivé à Monsieur Dion, m'a offert ces places-là. Souvent, c'est des cadeaux aussi, les gens ne savent pas trop ce qu'ils vont voir.
Ouais.
Et souvent, ils sont contents, quand même.
Trop bien, trop, trop bien. Donc plusieurs équipes pour cette soirée.
Oui.
Qui on va pouvoir retrouver, du coup, sur scène?
Alors, on a des invités qui viennent de un peu partout en France. La liste Farid Rezgi, qui lui est du Showtime, du Grand Showtime à Paris, qui est un ami de jeunesse de Marlène aussi, Marlène Grenon. Ils ont fait leurs premières âmes en impro ensemble, il y a quelques années en région parisienne. Sarah Zetiou, qui fait partie de l'équipe de France de match d'impro.
Okay.
On a Jeanne Chartier, qui est déjà venue plusieurs fois au Mondial et à Subito, qui est un peu, j'allais dire, une taulière de l'improvisation en France, ouais. Mais ouais, quelqu'un qui a plein de cordes à son arc en chant, en narration, fait de la voix off aussi, qui est une très bonne partenaire de jeu. Autant Farid, j'ai déjà joué une fois, non, je l'ai arbitré. Sarah, j'ai jamais joué avec elle. Jeanne, j'ai déjà joué plusieurs fois, donc ouais, je vois à quel point elle peut être généreuse en jeu. Et qui est-ce que j'oublie dans nos invités? Et Antoine Rabot. Antoine Rabot, qui lui aussi, il passe à la télé.
Ouais.
Il passe notamment dans Vendredi, tout est permis. Et en fait, sa particularité à Antoine, c'est qu'il a un solo d'impro. Donc, il maîtrise très bien les multi-persos, le fait de suivre un fil narratif et puis s'auto-apporter de l'accident pour avoir du moteur de jeu. Et puis, en plus de ces quatre invités, eh bien, il y a Marlène, Pamela et moi-même de Impro Infini.
Ok. Mm. Ah, donc, c'est vraiment des profils. Très varié.
Ben chaque fois, c'est la réflexion qu'on a avec, avec Pamela quand on fait un peu les choix des comédiens. Déjà, c'est est-ce qu'ils sont sympas Ouais. C'est un des trucs très importants.
Ça aide sur scène.
Du coup, souvent les gens disent, enfin, c'est des recommandations. Je dis, n'hésitez pas à inviter telle personne parce qu'ils sont super cool en dehors et sur scène. Parce qu'on passe quand même finalement du temps parce que il y a les deux heures de spectacle, mais en fait, ils arrivent dès le mercredi dans la journée. Donc, on passe la soirée, le jeudi ensemble, le vendredi, samedi et dimanche matin, souvent avant que tout le monde reparte chez soi. Donc, ça fait beaucoup de temps passé ensemble. Donc, autant qu'on puisse bien, bien s'arranger, quoi.
Trop bien. Est-ce que les équipes du coup sont déjà constituées?
Oui.
Ouais.
Oui, elles sont constituées depuis deux jours.
D'accord. Okay. Ouais. Ah, c'est pas le public qui.
Qu'en fait, comme c'est le catch, on fait des, il y a des trios qui sont thématiques, en tout cas avec des personnages. Donc là, on va partir c'est dans un peu moins d'un mois maintenant, mais on va partir en brainstorming pour savoir quelle est la couleur des trios, quels personnages vont être, et puis ça, c'est la petite tambouille interne, mais voilà, pas d'équilibrer, mais c'est avec qui on a envie de jouer retrouver en face. Forcément, si on n'est pas dans la même équipe, on va plus jouer avec les gens qui sont en face mécaniquement. Donc les trios sont faits. Je ne pourrais pas les dire parce que je les ai plus en tête.
Okay. Mais j'ai cru que c'était quelque chose de caché.
C'est pas caché du tout.
Ça marche. Est-ce qu'il reste des places?
Oui, il reste des places. Okay. C'est déjà pas mal rempli. L'Alizé de mémoire, il doit rester. On a une jauge un peu plus petite. On a une jauge de 500 personnes à l'Alizé. Il doit rester environ 200 places.
Okay.
Un tout petit peu moins. Ça, c'était lundi dernier, là, les chiffres. Et à la Velvoir, où on est sur 670 places exactement, il nous en restait autour de 150, je crois.
Ok.
Donc ça va partir. Ouais, c'est bien. Depuis quelques années maintenant, les deux soirs sont complets à chaque fois. Et tant mieux. Merci au public parce que ça n'aurait pas de sens si on jouait devant des salles à moitié pleines. Donc ça veut dire que bah il y a une attente, que les gens sont contents de venir et de revenir. Et nous, ça nous motive aussi de se dire les places sont vendues en avance et super quoi.
Trop bien. Et du coup, la billetterie, c'est en ligne principalement?
Oui, en ligne. Soit vous allez directement sur les sites des salles respectives, soit vous allez sur le site du Festival Subito, festival-subito.com, dans la partie billetterie, la récap des deux salles. Et puis, il y a des passes deux jours aussi. Il y a 70 personnes environ qui viennent les deux soirs, là, pour le moment.
Ouais.
Donc, il y en a encore en vente. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous dit de venir les deux soirs, venez.
Trop bien, trop cool. Du coup, là, tu parlais du Festival Subito.
Oui.
Donc, ça va se passer là, les 10 et 11 avril au Macorlan pour deux soirs, quatre spectacles. Qu'est-ce que c'est Subito? Est-ce que c'est différent? C'est du catch?
Non, pas du catch. Justement, avant le mondial, les ficelles, tout ça, c'était regroupé sous le même moment.
Okay.
On s'enquillait trois semaines, un mois de festival de spectacle. Là, on s'est dit, on vieillit, on n'a plus l'énergie pour faire tout ça. On est une équipe un peu plus réduite aussi. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas le même public qui vient au mondial et qui vient au Festival Subito. Donc on s'est dit, pour faire en termes de communication, si on va mettre le mondial un peu plus tôt dans l'année, donc mi-février, et en mi-avril, le Subito, là on est plus sur de la création à partir de l'improvisation et sur du sujet qui nous porte. Donc là, en discutant avec le Macorlan, en réfléchissant avec Pamela, la thématique là, du Subito cette année, c'est « Ce qui nous lie ».
Ok.
C'est le chapeau en fait qui nous a dirigé sur la création des spectacles. Et je crois qu'on en a pas encore parlé en grand public des contenus des spectacles. Là encore, on sait pas dans quel ordre on le met. On va bientôt communiquer dessus justement sur quel spectacle, quel soir. Mais on est en train de travailler avec on est en train de travailler sur la question de la technologie, l'intelligence artificielle et la question d'éthique avec Delphine Toquet qui est professeure sciences humaines et d'éthique à l'ENIB, l'école d'ingénieurs de Brest, pour justement, elle va porter la partie théorique, conceptuelle et scientifique et qui nous servira de base pour les improvisations, mais juste pour interroger sur le lien entre humain à l'épreuve de la technologie, on va dire, sans dire la technologie c'est mal, mais voir qu'est-ce que ça apporte, quel impact ça a sur les relations humaines. Ça, c'est un des premiers spectacles. Un spectacle aussi à partir de témoignages audio qu'on va récolter dans les quartiers, peut-être Bellevue, Carango, directement dans le public aussi le soir du spectacle. Interroger les personnes sur qu'est-ce qu'ils vous lient. Ouais. Est-ce que vous avez un événement où vous dites, tiens, voilà, là, j'étais vraiment en lien avec les personnes autour de moi. Excusez-moi, je vais tousser. un spectacle immortel qui vient parler d'un sujet qui lie toute l'humanité. C'est-à-dire le deuil, la mort, qui en soi n'est pas un sujet qui dire comme ça, oulala, mais là, c'est une création portée par Pamela, qu'elle a co-créée avec Florian Brezeler et Marie-Pierre Thomas, qui sont deux invités de Subito cette année. La première a été à la semaine de l'impro à Nancy l'année dernière. Mais justement, de voir qu'est-ce qui nous reste en fait des personnes qui ne sont plus là, quel impact ils ont encore dans nos vies, quelle présence ils ont. Donc c'est pas un spectacle triste, au contraire, ouais. Mais c'est un spectacle très lumineux qui est là pour apporter un souffle sur ces questions-là. Et puis, dernier spectacle où là on a en tête quelque chose d'un peu plus Monty Python. Mais justement une sorte de création in situ, dont on veut quelque chose d'épique, créé avec les moyens du bord, de l'improvisation et la folie, de briques et de broc, de quelque chose, on part sur quelque chose de création, enfin à la base premier degré, mais avec les moyens qu'on a, avec des là toujours en interaction avec le public. Donc chaque spectacle, de toute façon, il y a une interaction avec le public, ouais. Et à chaque fois le côté, le lien entre le rire, le deuil, la technologie, les rapports humains, voilà, c'est les choses qui nous ont portés. On est encore en train d'y travailler parce que, pareil, nos invités, ils sont entre la Belgique, Lyon, Paris, donc c'est qu'on puisse avoir des règles du jeu les plus claires possibles, et on a un temps de travail ensemble la veille du Subito à Macorlan, mais qu'on puisse avoir un espace de création et là encore qu'on puisse s'amuser.
Trop bien, trop bien. Donc le 10 et 11 avril au Macorlan.
Oui, les places sont déjà en vente.
Oui.
Sur le site internet, okay. N'hésitez pas. Et en parallèle, je ne l'ai pas dit, mais pour le mondial, mais il ne reste pas encore une place. Mais en fait, on organise des stages d'improvisation, oui. Au lycée Fénelon. Pour le mondial, il reste une place pour le stage de Farid.
Okay.
Et on a ouvert aussi un stage de 3 heures d'initiation à l'improvisation, pour ceux qui aimeraient découvrir l'improvisation. Mais là, sur un format de 3 heures, c'est Léo Madec qui va animer ce stage-là. Donc pour le stage d'initiation, il reste encore pas mal de places, donc n'hésitez pas. Et pour le Subito, il y a des stages. En fait, les artistes invités proposent des stages sur les thématiques qui leur tiennent à cœur.
Trop bien, un stage du coup accessible à tout le monde.
Ouais, souvent on demande souvent une expérience, ouais. Alors soit de l'impro, soit de la scène. Il y a des gens qui font pas forcément de l'improvisation, mais ils disent cette thématique-là me plaît bien, parce qu'ils font du clown, parce qu'ils font du théâtre à texte, parce que peut-être même ils sont professeurs et ils sont amenés du coup à être en représentation devant des élèves. Et du coup, chacun porte cette thématique du vaudeville. Il y a sur l'intimité, sur réussir ses entrées en scène et ses sorties.
Ouais.
Donc, chacun porte un petit peu le métier sur lequel il est en train de travailler en ce moment, et puis pour le proposer aux stagiaires. Donc, c'est des stagiaires qui viennent des troupes d'improvisation bretonnes. Donc, ça brasse assez large dans l'ouest, on va dire.
Ok, chouette, trop bien. On reparlera du coup de Subito un peu plus tard dans l'année dans une autre émission.
Mais volontiers.
Bien sûr. Merci Romain pour
cette merci de l'invitation.
Merci à toi. Reste là, ne pars pas, car dans un instant, après une petite pause musicale, on va se retrouver pour faire un petit peu d'impro, jouer un petit peu finalement.
Ça me va.
Trop cool. Oui. À tout de suite, vous êtes sur Radio U, ne partez pas.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi, m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me battent. Je vais à Rix et des Santiago, viens faire un tour dans terre en vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, je lui ai filé une torgnole, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule, m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, et pas bidon. Moi je mets déjà sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinet. Je te jouerai après ton blouson, moi j'ai dit laisse béton. Il m'a filé une beigne, je lui filé un marron. Il m'a filé une châtaigne, je lui filé mon blouson. C'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu trouveras poisson tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
De retour sur Radio U, sur le 101.1, vous êtes toujours dans Caucus, le magazine de l'impro, et on est toujours en compagnie de Romain.
Oui, je suis toujours là, j'ai pas bougé.
Non, c'est très bien. On va maintenant se faire quelques petits jeux, si tu veux bien.
Là, je veux bien.
Trop cool. On va se tester un peu sur l'impro. On va commencer avec le très célèbre jeu des 1000 balles.
Ah, j'adore ce jeu.
C'est vrai.
Ah, mais j'écoute tous les jours.
Excellent. Je vais te poser 4 questions. Tu vas essayer d'y répondre correctement pour pouvoir débloquer le super banco.
J'espère que je.
Mais c'est. Je pense que, ouais. Mm-hmm. Ça, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Es-tu prêt pour la première question ?
Je suis prêt.
Très bien. Première question. Quelle phrase rendue célèbre par Louisa May Alcott dans son livre Les 4 filles du docteur March peut-on lire à la page 76, ligne 14 de l'édition Folio Junior de ce même livre ? Je cherche une phrase.
Ouais, je vois très bien.
Ouais.
J'essaie juste de me rappeler du premier mot de la phrase.
Oui, bien sûr.
Qui est là.
Plus important.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai.
Ok.
Je l'ai. Vous êtes prêts ?
Oui.
C'est père. Notre sœur n'est pas rentrée hier soir. Nous sommes inquiètes, mes sœurs et moi.
C'est exactement la bonne réponse.
La bonne réponse.
C'est ça.
Ouais,
c'est
je sais pas si la ponctuation était. Ça va ?
Si, ça va.
C'est salé.
Ça okay. va. Le premier mot, c'est. Ouais, en effet, ouais. père.
Ouais.
Et c'est pour ça, après, je sais que ça déroule parce qu'elle est connue, la phrase.
Ouais, ouais.
On la connaît. Okay. Un point, déjà.
Ouais, merci.
Bravo,
super.
Bravo. Wow. Deuxième question. Quel événement marquant survenu en 1204 a provoqué la chute de l'Empire byzantin ?
Mm-mm.
Cherche cet événement, bien sûr.
Oui.
Pas si c'est simple, mais quand même.
Oui, bah c'est de la fameuse dispute entre l'empereur Constantin et son frère.
Oui.
Son frère Louis. Enfin, qu'il appelait Petit Louis à l'époque, justement. Et Louis en avait un peu marre de se faire moquer, harceler même par son grand frère Constantin, qui était connu pour son caractère un petit peu, un peu braque quand même. Et puis bon, le gars était empereur, donc bon, il se l'a raconté pas mal. Il savait que son frangin ne serait jamais empereur, donc il, voilà, plutôt que de faire être un peu humble, il a quand même accentué le truc. Donc ce qui fait que Constantin est resté à Byzance. Et puis Louis est devenu roi de France, tout simplement.
C'est exactement ça. J'ai réussi à accepter le siège de Constantinople, mais c'était en effet...
Oui, ils se sont disputés une question de siège.
C'est exactement, ouais. C'est exactement ça.
Ils sont fauteuils préférés, tout ça, et puis voilà. Bon.
Bien sûr. Bonne réponse, 2 points déjà. Félicitations.
Deux points.
On n'est pas loin du super banco. Là. Citez au moins 3 des 26 symboles qui composent l'alphabet latin.
Je pense l'alpha, l'oméga et le zeta. En latin ancien, on est d'accord ?
Oui, en latin ancien.
Ancien, ouais. Ouais, bah c'est ça. En gérontif, pardon. Par contre.
Oui. Bien sûr. Oui. Mais c'est ça. Oui, j'accepte.
Non, j'accepte. Parce que je sais qu'il y a des puristes latinistes là qui écoutent Radio U.
Je pense qu'ils vont pas se formaliser là-dessus.
Ouais. Non, mais faut quand même le voilà. Parce qu'après, on dit hein.
Oui.
Et genre, on n'a pas envie.
Non, on n'a pas envie d'avoir.
Parce qu'après les appels. Enfin, c'est pour vous après.
Oui.
Quoi,
bien sûr. Moi, si on peut éviter les tweets insultants.
Oui.
Moi, ça me va.
Ouais. Je comprends.
Bien sûr.
Alpha Omega Zeta, ouais.
Mais c'est une bonne réponse, bravo. Encore un point et c'est le Super Banco.
Bien sûr. Pop.
Citez au moins 3 des 26 runes de Noxos qu'on peut retrouver dans le Necronomicon.
Combien de runes vous avez dit ?
26.
26, il faut que je cite les 26 ?
Non, 3. Non,
3, pardon.
Juste 3.
3 sur les 26. Eh bien, il y a. Bon, je vais essayer pas de dire les plus connus. Pour le coup, je vais essayer d'aller un peu.
Joueur, très
bien. Ouais, aller un petit peu, voilà, faire parler, plaisir un peu aux spécialistes. Je pense qu'il y a la rune de l'élan.
Mm-hmm.
La rune d'élan, très importante. Enfin, quand on la tire, c'est vrai qu'on. Ça porte chance. Enfin, ça dépend avec quoi elle est combinée, forcément. Donc, la rune de l'élan.
Ça fait une.
Ouais. La rune du pont, qui relie les deux mondes, voilà, très très important. Du pont, ouais, pas confondre avec la rune du thon.
Non, oui.
Ouais, qui apporte une pêche souvent assez abondante. Donc la rune de l'élan, la rune du pont, et je voudrais bien citer la rune du chêne. La rune du chêne, au numéro 56 d'ailleurs de la rune du chêne, voilà, où il y a vraiment des gens sympas qui y vivent. C'est 3 runes que j'aime citer et souvent d'ailleurs qui sont tatouées sur mon avant-bras.
Ah oui, très bien. Eh bien, ça fait 3
bonnes réponses.
3 bonnes réponses.
Très bonne réponse. Ouais.
Donc un point. Ça fait 4 points pour cette première partie. Tu débloques.
Le super banco, excellent.
Est-ce que tu es prêt? Là, t'as déjà gagné.
Ouais.
Mais le super banco,
ouais.
Tu gagnes plus.
Plus, ouais. D'accord. Plus que ce que j'ai déjà gagné.
Ouais.
D'accord.
Okay. Ce
qui est déjà beaucoup.
C'est déjà énorme.
Énorme.
Ce que tu as gagné est énorme.
Énorme. Ouais. Ok, super. Merci Radio U.
Oui, c'est la compta après qui gérera.
Ouais, oui.
Es-tu prêt pour le super banco?
Je suis prêt.
Très bien. Quelle réplique célèbre a été prononcée par Timothée Langlois en septembre 2022? Peut-être que tu l'as déjà.
Mmh.
Lors de son discours d'investiture, après avoir remporté, bien sûr, les élections de délégué de classe de sa classe de 5e C au collège de Misedon à Port-Brié en Mayenne, mais tu le sais peut-être déjà aussi.
Ouais, ouais. Bah oui, là, c'est des phrases il y a des phrases comme ça qui restent dans l'histoire.
Bien sûr.
Et là, on voit que Timothée est connu pour ne pas travailler avec des. Il n'a pas de cabinet conseil. Et vraiment, il est quelqu'un qui est très libre dans sa pensée, dans son expression. Et cette phrase-là qu'il a dit, je le cite, semble l'approprier, évidemment. Timothée, on pense à toi. Ce qu'il a dit, franchement, ça gère.
Franchement, ça gère. Phrase qui reste dans les annales. Bravo,
c'est
bravo
ça,
Romain, c'est gagné absolument.
Bah, ouais, super, j'ai gagné là.
Ouais, là tu as remporté le jeu des 1000 balles. Et voilà.
Oh là là, j'espère que mes parents m'écoutent en tout cas.
Et ben, on les salue. On les salue. Félicitations.
J'ai gagné, super banco.
Et c'est 1000 balles dans la poche.
1000 balles, merci voilà. Radio U.
On ira voir la compta après, ils vont être ravis, je pense. Cool. Premier jeu terminé.
Super.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Trop cool.
Tant que je peux raconter des conneries.
Oui, bah écoute, là tu vas, ça va être festival, tu vas pouvoir t'amuser. On a aussi une petite partie radio libre dans cette émission.
Oui.
On aime un peu ça. On a quelques personnes qui nous ont envoyé par vocaux des problèmes.
Très bien.
Et donc si on va essayer de les aider tout simplement. Ça marche ?
Ça marche.
Très bien. Première personne, qui est-ce qui nous a laissé un vocal ?
Bonjour, c'est Sandrine de Levallois-Perret dans le 92. J'aurais aimé savoir si c'était possible et comment faire pour redémarrer un ascenseur soi-même en étant de l'intérieur. C'est pour un pote. Merci.
Merci Sandrine de nous avoir contactés.
Mmh. Ouais, bah Sandrine, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà tiens bon, parce qu'en fait, je pense qu'on le sait tous, tout le monde est déjà resté coincé dans un ascenseur. Le plus dur, c'est de pas paniquer parce qu'on sait que c'est un endroit fermé, hermétique, et souvent l'air, enfin les réserves d'air sont limitées, souvent à 45 minutes. Donc bon courage. Déjà, je sais pas à quel moment elle nous envoie ce message, mais voilà, on va répondre rapidement en tout cas. Ouais. Le plus important, c'est de retirer le bloc où il y a tous les petits boutons là. Avec l'aide d'un objet contondant, ça peut être aussi un talon aiguille, une lime à ongles, une dent pivot aussi pour faire levier. En tout cas, on retire et l'idée c'est d'avoir des câbles électriques et de provoquer un court-circuit. Alors, ça dépend des marques d'ascenseurs. Mmh. Mais on peut le court-circuit peut faire lâcher les grippes et donc là l'ascenseur tombe. Donc si vous êtes au premier étage, ça va. Si vous êtes au dernier,
ça va être compliqué
un petit peu. Mmh. Et puis des fois l'autre bon circuit peut ouvrir les portes et là bon vous êtes sauvé a priori. Donc court-circuiter l'ascenseur tout simplement.
Court-circuit Sandrine. On lui souhaite bien sûr bon courage.
Bon courage Sandrine,
bon
à bientôt.
Bon courage Sandrine. Merci d'avoir appelé. Deuxième vocal.
Oui, bonjour Radio U, Sandrine de Maubeuge. Je vous appelle, ça fait 7 ans que j'ai mangé par inadvertance nourriture de mon chat. Et en fait, je crois que j'y ai pris goût et je ne me nourris plus que de ça aujourd'hui. Après, on m'a récemment conseillé de revenir à une alimentation plus équilibrée. Donc, je voulais savoir, si je risquais quelque chose. Enfin, comment revenir à une alimentation plus conventionnelle, on va dire. Hein. Et surtout, merci à vous pour vos réponses. Et puis, j'adore votre émission. Bonne journée.
Une autre Sandrine nous contacte.
Ouais. Je pense qu'il faut déjà remercier Sandrine de partager, de partager ça, parce que c'est peut-être pas quelque chose de facile à porter tous les jours en société, notamment, parce qu'on peut pas aller au restaurant et dire j'aimerais du sheba.
Malheureusement, c'est compliqué.
C'est compliqué. Donc merci de partager ça avec nous. Je sais pas si toi t'as déjà mangé de la nourriture pour chat.
J'avoue que j'ai essayé.
Ouais, parce que c'est tentant. Hein, des fois,
c'est tentant.
On voit les goûts. On se dit pourquoi pas. Mais je pense que ça, Sandrine s'inscrit un petit peu dans l'histoire de l'humanité. Ces personnes là qui à un moment donné se disent tiens, et si je mangeais cette huître.
Oui.
Qui à l'époque de ce.
Pas non plus.
Ne s'appelait pas huître en plus, mais se dire tiens, est-ce que je goûterais pas ça tiens, un oursin, et si on le mangeait Et si j'allais traire cette vache, par exemple il faut des pionniers et des pionnières, et je pense que Sandrine fait partie des pionnières. Donc lâche pas, Sandrine. Fie-toi à ton instinct. Ton instinct te dit de manger. La nourriture pour chat et qu'il n'y a pas d'impact gastrique, je veux dire, intestinaux, continue, parce que ça coûte moins cher en plus qu'une boîte de conserve ou l'Emsorin.
C'est vrai. Fais-toi plaisir, Sandrine.
Ouais, fais-toi plaisir. Franchement, vu le contexte politique, fonce quoi. YOLO.
YOLO. Voilà. Merci Sandrine, tu peux nous rappeler si tu as d'autres problèmes. Vocal suivant.
Salut l'équipe, c'est Paul du Havre. J'appelle parce que là, j'essaie de prendre un bain et je voudrais remplir ma baignoire. Mais le problème, c'est qu'elle peut contenir en tout 3 mètres cubes. J'ai une grande baignoire. Et elle se remplit à faible débit, environ 20 cm cubes par minute. Sachant qu'en plus, elle est un peu vieille. Donc, il y a un petit trou qui la vide un peu en même temps à raison de 0,8 cm cubes par minute. Mmh. J'aimerais savoir en combien de temps elle arrivera à être remplie, quoi. Savoir si j'ai le temps d'aller faire à manger ou quoi. Allez, merci, à plus.
Énorme problème là de Paul.
Bah oui, il habite au Havre.
Ouais, déjà il habite au Havre.
Ouais, donc déjà, soutien de Brest, parce que je pense qu'on est un peu dans la même team, tout ça, le Havre-Brest. Paul, déjà c'est bien que tu prennes soin de ton hygiène. Ça c'est hyper important. Peut-être que c'est pas un bain pour se laver. Peut-être que c'est juste un bain détente.
Ah oui, c'est pas précisé.
Ouais. Est-ce que déjà le bain c'est pour lui? Que pour lui? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir? Parce que dans ce cas-là, en termes de... c'est la poussée d'Archimède.
Oui.
Simplement. S'ils sont nombreux, il a moins besoin d'attendre de remplir la baignoire. Donc, moi, je voudrais pas être donneur de leçons et dire, c'est temps, telle heure. Je pourrais le dire. Là, clairement, les données sont là. Je pourrais dire, Paul, dans telle heure, pouf, ton bain, il est prêt. Mais comment ils vont être dedans? Je connais pas la corpulence de Paul.
C'est vrai.
Paul, rappelle-nous, donne-nous quelques petites précisions parce que je voudrais pas être à côté de la plaque, mais je pense quand même qu'il a le temps de se faire à manger.
Ouais, oui. À 3 mètres cubes, je pense que 3 Paul, mètres cubes,
ouais,
faire...
ça fait, ouais, ça fait une bonne bassine là.
Ouais. Bah écoute, fais-toi à manger, Paul. Fais gaffe à ton alimentation aussi. Merci. Vocal suivant.
Oui, allô, bonjour, c'est Soisy, Claude Guil, là. Je suis au port, j'attends que les chats nous rentrent. Les langoustines sont bonnes cette année, la saison est bonne. Moi, j'entends être en gouma. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore, là? Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a avant, hein?
Être en gouma.
Être au gouma.
Au gouma.
Au gouma.
Bah oui, alors c'est un dérivé de l'expression être au four et au moulin, qui s'est transformé en être juste au gouma, être au four et au gouma.
Ah oui.
Parce qu'en fait, on utilise beaucoup moins de moulins aujourd'hui. Et finalement, les seuls moulins qu'on utilise, c'est des moulins alimentaires, moulins à poivre, certains odeurs moulins à café. Le succès des machines Sega Fredo en ce moment, voilà, pour qui mouent le café directement le matin. C'est pour dire que quoi? Que le moulin finalement s'est transformé en quelque chose pour du goût.
Oui.
Du goût, le gouma. C'était sa mauvaise finalement entre moulin et goût. Les mots se sont fusionnés. Et c'est ça la beauté de la langue française et des langues en général, c'est que c'est des langues qui évoluent et qui s'adaptent aux usages. Et effectivement, être au gouma finalement, c'est être en train de préparer un assaisonnement pour un plat. Et j'entends à l'accent de Soisic, c'est ça?
C'est Soisic, quoi.
Et Soisic, c'est une personne qui a du goût, personne qui sait ce qu'elle veut, mais qui est peut-être perdue dans l'époque actuelle, et je le comprends parce qu'il y a des fois, voilà, ça évolue, il y a des mots qui arrivent, qui repartent, des mots qui restent, et donc je pense dire, bah voilà, là je suis au gouma, c'est de se dire, bah là je vais me faire un bon petit plat.
Ok.
Tout simplement.
Ok, super. Et bien, Soisic, tu peux également te faire un plat. Merci Soisic de ton appel. On va passer un dernier vocal. On a eu un dernier vocal là pour l'émission là.
Bonjour, c'est Émile de Bordeaux. Je vous appelle car j'aimerais savoir si j'allais éventuellement rencontrer quelqu'un ou peut-être une grande rentrée d'argent, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais connaître un petit peu mon avenir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.
Merci Émile de ton appel.
Ouais. Bah là, je pense que la réponse est simple. Tu me contredis si t'es pas d'accord,
ouais,
mais
ouais.
Moi je pense, enfin Émile, là j'ai fait un peu j'ai fait son signe numérologique,
ouais,
par rapport aux lettres, c'est qu'on est sur du 47. Et 47 forcément là sur une année 2026 où là on est sur du 10 en 2026, si on additionne, ouais, un petit peu tout ça, rencontre, oui, pourquoi pas, plutôt fin d'année. Ça dépend, puis si t'es 3e des camps ou
c'est pas tout de suite, en tout
c'est
cas.
Pas tout de suite,
non.
Et la rentrée d'argent par contre, là non. Là non, il y a trop d'incertitudes. Là je regardais ce matin encore, la Saturne vient d'entrer en Sagittaire 2, donc clairement
c'était aujourd'hui là,
ouais c'était okay. Aujourd'hui vers 3h du matin là ça a décanté, c'est à dire qu'on rétrograde du deuxième au premier décan, donc là pour Émile de Bordeaux en plus, Bordeaux, Bordeaux.
Ouais, c'est pas ça.
Tac. Ouais, quand on a des lettres qui viennent de la dernière partie de l'alphabet, on sait qu'on n'est pas loin des portes de Satan.
Ouais.
Donc là, Émile déménage déjà, peut-être au Havre, tout simplement, parce que les Havres, on est sur des lettres plutôt cool. Cool. Et moi, j'aurais bien aimé avoir sa date de naissance pour vraiment avoir un truc un peu à
finir.
Il n'a pas tout communiqué.
Non.
Là, c'est comme Paul, une petite approximation. Mais là, je pense que. Non, mollo. Pas trop d'attente sur 2026. 2027, à la rigueur, on est sur du 11. Et 11, on est sur un chiffre premier. Et là, on n'est pas, enfin, nombre premier même, donc on est pas mal.
Ok.
Et 1 plus 1 égale 2.
Je crois que c'est ça, ouais.
Pour les rencontres, c'est compliqué.
C'est, ouais. Ouais. Malheureusement, Émile, tiens le coup, on peut te souhaiter que du bien. Merci d'avoir
appelé. Ouais, merci beaucoup, Émile. Et tout le monde.
Oui, merci tout le monde. Et c'est sur ce dernier conseil qu'on arrive à la fin de l'émission.
Là, j'espère avoir aidé la France.
Ben, je pense que la France se porte beaucoup mieux maintenant. Ouais, très sincèrement. Merci Romain d'avoir été avec nous.
Ah ben, derrière, je repars avec 1000 balles en plus, donc franchement, j'ai bien fait de venir. Merci Radio U.
C'était, je pense, la première et la dernière émission. La compta me déteste déjà. Avant de finir l'émission, petit rappel avant de se quitter sur les dates du coup de février des spectacles. Le mercredi 4 février, c'est le deuxième spectacle Nuit en médiathèque avec le concept Au coin du feu par la Libido. Le 6, c'est le musical au Kafkérine par la Clique à farce. Le vendredi 6, du vendredi 6 au dimanche 8, c'est le deuxième festival Festamine pour les 30 ans de l'assaut Vitamine de Plabennec. Le 7, c'est le deuxième match de Brest Impro qui verra s'opposer Saint-Martin à Lambézélec. Et ça se passe à la PAM par Poulpe Productions. Le 12, toujours par Poulpe Productions, c'est le duo d'impro Hot Sessions au Grabuge. Le vendredi 13, la Murder Party improvisée aux Enracinés par la Libido. En concurrence, bien sûr, avec le vendredi 13 à l'Alysée, à Guipava, le Mondial d'Impro, ainsi que le 14 à la Velvor, à Plougastel d'Aoulas, par Impro Infini. Merci public d'avoir écouté l'émission. On se retrouve le mois prochain, le 22 février à 19h, pour la deuxième. On vous souhaite une bonne suite des programmes sur Radio U, ou une bonne suite de journée si vous nous écoutez en podcast. Merci encore Romain d'avoir été avec nous.
Et bah de rien, merci de l'invitation.
Mais sans problème, merci beaucoup d'avoir été le premier invité de l'émission.
Premier à jamais.
Oui, le premier pour toujours. On vous fait des gros bisous, merci public. On vous laisse, c'était Cocus. Au revoir.
Bonne nuit.